Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Divergence FM et on accueille Françoise Verna comme toutes les semaines qui va nous parler des titres à la une de la Marseillaise, c'est l'hebdo d'Occitanie qui paraîtra ce vendredi 16 décembre. Bonjour Françoise.
Bonjour Noémie, bonjour à tous.
Super, alors cette semaine à la une, vous allez nous parler de votre dossier sur les solidarités qui se déploient pour faire face à la crise.
Oui, tout à fait, donc à la veille des fêtes de fin d'année, nous a semblé important de mettre l'accent sur les solidarités en faisant des focus sur les actions concrètes qui sont menées dans l'Hérault et dans le Gard.
D'accord. En deuxième partie, le Centre spatial de Montpellier et sa fondation Van Allen entrent dans la cour des grands. Qu'est-ce qui va se passer?
Oui, en fait, le Centre spatial de Montpellier et donc la fondation va lancer en 2023 quatre nouveaux nanosatellites. Donc c'est un, on pense souvent à Toulouse quand on parle de l'espace, mais à Montpellier il y a ce centre spatial et on explique pourquoi dans cet article. Ça va être très utile notamment pour lutter contre le réchauffement climatique.
D'accord. Ok, ben je savais même pas qu'il y avait le centre spatial à Montpellier. Ça va être intéressant.
C'est bien pour ça qu'on fait le sujet, voilà.
En troisième titre, avec la Marseillaise, vous êtes allé à Nîmes et vous nous révélez la nouvelle grande exposition du musée de la Romanité.
Oui, tout à fait. Alors cette grande exposition temporaire du musée de la Romanité s'intitule Dévoiler Nemosus. Nemosus, c'est le nom de Nîmes, le nom antique de Nîmes. Alors elle met en scène les aquarelles de Jean-Claude Golvin, qui est le grand spécialiste mondial de la restitution par l'image des grands sites de l'Antiquité. C'est une exposition qui a commencé là, le 8 décembre et qui est ouverte au public jusqu'au début mars.
Super, ok. Et pour finir, vous faites un focus également sur l'action de la région pour amener le public dans les salles de cinéma?
Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit que depuis la pandémie de Covid-19, les salles obscures sont en difficulté notamment pour ramener le public. Et donc, la région Occitanie qui est assez active pour soutenir le cinéma, des actions et aussi des dispositifs de soutien pour les étudiants de la filière. Et donc, on est un peu tout ça dans cet article.
À la une de la Marseillaise, vous avez les titres et Françoise Verna va nous les détailler.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Alors, votre premier dossier cette semaine, c'est les solidarités qui se déploient pour faire face à la crise. Vous nous en dites plus, Françoise Verna?
Oui, alors déjà sur la motivation, pourquoi la Marseillaise, nous avons choisi de faire ce dossier sur les solidarités, parce qu'elle se décline au pluriel, hein, dans les deux départements de l'Hérault et du Gard, hein, qui sont notre zone de diffusion. Hein. Alors là, la première raison, c'est parce que l'inflation plonge nombre de familles dans les difficultés matérielles, hein, et les associations en sont les premières témoins. On peut citer le Secours Populaire, les Restos du Cœur, les banques alimentaires, le Secours Catholique, mais aussi les collectivités locales. Hein. Ouais. Alors, sans les actions de ces associations et des collectivités, la vie quotidienne pour nombre de familles serait intenable. Hein. Ouais. Donc, l'objectif de notre dossier, c'est de mettre l'accent sur les actions concrètes. Par exemple, en matière de droit au transport, il y a une décision politique importante de la région qui a été de proposer le billet pour emprunter les trains express régionaux à 1 euro chaque premier week-end du mois. Alors c'est une mesure exceptionnelle qui avait été prise il y a quelques semaines et qui est désormais pérennisée. C'est-à-dire que le prochain week-end concerné, ça sera le 7 et 8 janvier. On peut déjà passer commande de ces billets à partir du 23 décembre. Et en plus de cette initiative qui concerne tous les habitants de la région Occitanie, il y a une tarification sociale, hein, comme nous l'explique Jean-Luc Gibelin, qui est donc le conseiller régional délégué au transport. Ouais. Pour les personnes qui sont allocataires des minima sociaux, il y a 20 trajets gratuits qui sont valables pendant 6 mois et 75% de réduction sur tous les autres trajets en TER. Alors c'est important parce que le poste de dépense transport est celui qui est le plus impacté pour les personnes à faible revenu. Donc c'est aussi cette mesure, elle permet aussi l'accès facilité à la culture, puisqu'elle correspond aussi à l'ouverture gratuite des musées nationaux pendant chaque premier week-end du mois. Et puis, ça lutte aussi contre le fléau de l'assignation à résidence quand on n'a pas les moyens de se déplacer. Donc, ça fait partie des actions que nous mettons en avant. Il y a aussi un autre exemple que nous donnons dans ce dossier, c'est la lutte contre la solitude et l'isolement. Alors nous sommes allés à la rencontre de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des Pauvres, c'est vraiment l'association qui va se battre pour briser l'isolement des personnes âgées. Et donc, par exemple, ils vont organiser la veille du réveillon de Noël, le 23 décembre, un grand repas à Nîmes. Pour accueillir les personnes et partager un moment festif et surtout un moment en commun. Hein, et ça se traduit aussi par des visites. Alors, c'est tout au long de l'année. Hein. Il y a des visites, des sorties. Donc, il y a une bénévole qui s'exprime. Nous donnons aussi dans la Marseillaise toutes les coordonnées de cette association d'utilité publique qui existe depuis très longtemps, depuis 1946, car elle a toujours besoin de bénévoles. Hein. Donc c'est des bénévoles qui vont aller donner de leur temps, offrir de leur temps à des personnes qui souffrent d'isolement social. Donc voilà, ça fait partie des exemples. Et puis, un autre exemple concret aussi, c'est de conjuguer moments festifs et culturels avec la solidarité, puisque à l'initiative du Cirque Populaire Français, comme tous les ans, il y a un grand concert des Rockeurs du Cœur. Ouais. Ça va se dérouler vendredi à Saint-Jean-de-Védas. Et là, en fait, on paye son billet sous forme de jouet pour les enfants. Voilà, donc ça
on amène le jouet qu'on veut.
On amène le jouet qu'on veut d'une valeur. Bon, c'est comme on veut. Après, le premier prix, c'est 10 euros. Mais on peut évidemment faire plus. Alors ça, ce sont les actions concrètes. La deuxième motivation pour proposer ce dossier à nos lecteurs et aux auditeurs de Divergence, elle est plus structurelle, elle est plus politique parce que si la précarité s'installe, c'est aussi à cause de politiques décidées depuis longtemps. Ouais. Par exemple, en matière de logement, avec la baisse des crédits au logement social, la baisse des droits pour les gens privés d'emploi, les chômeurs, des choix aussi en matière de fiscalité qui ont asséché les finances publiques et donc les moyens pour les services publics. Donc ça aussi, c'est une dimension du dossier que nous donnons. Et puis, il y a aussi une troisième dimension importante, c'est la dimension européenne. Oui. Malheureusement, la précarité la pauvreté, c'est pas un phénomène uniquement qui se déroule dans nos départements, en France, c'est aussi en Europe. Et là, il y a eu un baromètre 2022 de la pauvreté qui a été donc élaboré par le Secours Populaire Français, qui est allé interroger avec son partenaire Ipsos plusieurs personnes qui vivent dans les pays européens. 6000 personnes interrogées en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, c'est un pays européen. Et donc là, on apprend qu'un Européen sur 4 déclare être dans une situation précaire, notamment les Grecs, eux, se disent très majoritairement fragilisés. Ouais. Et les principaux postes concernés sont les déplacements, le chauffage et la santé. et près d'un Européen sur deux est contraint d'économiser sur l'alimentation et la santé. Voilà, donc c'est aussi une réalité européenne. Et il y a aussi des solidarités et des mouvements sociaux qui ont lieu dans la plupart de ces pays, notamment au Royaume-Uni, comme aussi en France. Hein, on n'est pas les seuls à se mobiliser, à avoir un mouvement social. Et donc, c'est un dossier qui à la fois met l'accent sur la solidarité complètement nécessaire, sur les actions concrètes, mais aussi sur pourquoi cette solidarité est nécessaire, bien évidemment, et pourquoi, quelles sont les ressenties des difficultés grandissantes.
Oui, surtout avec la hausse du prix de l'énergie, là, il y en a qui vont devoir choisir entre se chauffer ou se nourrir, donc c'est vraiment un vaste sujet.
C'est exactement ça, c'est un arbitrage impossible, et
c'est très compliqué.
C'est pourquoi, voilà, il y a il y a aussi des solidarités importantes à ce niveau-là, même si il y a des choix structurels et politiques qui doivent être faits pour non pas réparer, mais éviter aussi les situations de précarité et de pauvreté.
Et donc c'est très bien d'aborder tous ces sujets d'action concrète. Hein. Pour nous, ça nous donne un peu d'espoir. Merci pour ce dossier. Et oui. Dans un autre sujet, pour le deuxième dossier, ça parle du Centre spatial de Montpellier, c'est ça ?
Mais en fait, oui, il faut savoir qu'à Montpellier, il existe donc un centre, il y a la fondation Van Allen, mais il y a aussi un centre spatial qui existe depuis 10 ans. Donc ça fait maintenant... ça fait maintenant une décennie que ce centre spatial à Montpellier travaille, hein, et c'est vraiment quelque chose de fortement utile. Donc nous avons interrogé son président, le président de la fondation Van Allen. Alors Van Allen, pourquoi Van Allen ? Parce que James Van Allen, c'était un grand
physicien. Qui est ce personnage ?
Et un astronome, donc qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et donc l'université de Montpellier, le Centre spatial de Montpellier, a donné son nom à la fondation. Donc le président de cette fondation, c'est Jean-Claude Guessot. Alors c'est pas un inconnu, Jean-Claude Guessot, hein. Il a été ministre des Transports sous le gouvernement Jospin en 1997 jusqu'en 2002. Et le ministre des Transports de l'époque était aussi ministre de l'Espace. Donc c'est pour ça qu'il préside cette fondation. Et donc il nous explique un peu l'historique. Hein. Donc ça a été le premier centre spatial universitaire français. Hein, celui de Montpellier, c'est le premier centre spatial universitaire français. Et
je ne sais pas si on est beaucoup à le savoir, ça.
Oui. C'est pour ça que, c'est à l'occasion du renouvellement de la convention. Ils sont repartis pour 10 ans, puisque la convention a été renouvelée. Ça veut dire que les budgets seront là. Et donc, il y a des formations d'étudiants. Il y a des coopérations avec des industriels et la recherche. Et ça permet, son objet d'étude est vraiment, c'est répondre aussi. Hein. Ils apportent des solutions pour répondre aux grands défis de demain, comme le réchauffement climatique. Il y a depuis 10 ans, 1000 étudiants ont été formés. Hein, donc c'est extrêmement important. Alors,
comment on le fait le lien alors entre... lutter contre le réchauffement climatique, parce que quand on pense lancement nanosatellites, les fusées, tout ça, c'est très polluant. Alors comment on fait le lien ?
Il faut savoir qu'au niveau de leur actualité, l'année prochaine, donc vraiment en 2023, c'est ce que nous explique Laurent Dussault, qui est le directeur du Centre spatial de Montpellier, hein, centre universitaire. Hein. Donc il y a 4 nouveaux nanosatellites qui ont été conçus à Montpellier, qui vont faire leur baptême du feu. Hein. C'est un projet, c'est dans le cadre du projet Méditerranée. Donc on a, il y en a un qui partira, qui s'appelle Robusta 3A, qui sera lancé à la fin de l'année 2023 sur le vol inaugural d'Ariane 6.
Ok, il parle de Kourou, donc en Guyane.
Voilà. Et donc la mission de ce nano satellite sera de collecter des signaux GPS depuis des récepteurs placés sur des navires de croisière, puis de les transmettre à Météo France. Ouais. L'objectif, ça sera de mesurer le champ d'humidité au-dessus de la Méditerranée afin de mieux prévoir les épisodes cévenols notamment.
D'accord.
Donc voilà, je réponds à la question de à quoi ça sert de comment participer dans l'espace à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est qu'il y a une ouverture vers le continent africain, puisqu'il y a un travail qui est fait en lien avec Djibouti. Il y a 10 étudiants qui ont été envoyés à Montpellier. Mmh. Les deux nanosatellites qui ont été conçus par le Centre spatial de Montpellier avec les étudiants, ils ont la vocation d'aider Djibouti à mieux évaluer le niveau des pluies, du vent, des températures dans l'oued d'Ambouri. Alors il dit, le directeur du centre nous dit que c'est pas du tout un gadget,
ouais.
Parce que savoir s'il y a de l'eau dans un puits, c'est peut-être une question de vie ou de mort.
Ouais,
hein, donc, et puis après, il y a aussi un autre projet qui est développé avec le Sénégal.
Ouais.
Lui et ce projet-là, donc on parle bien de nano. Satellites. Hein. Alors, ce satellite-là avec le Sénégal, il vise à mesurer le niveau d'eau dans les fleuves. Et il y a d'autres projets qui sont en cours, dont on a un qui vise à repérer les déchets en Méditerranée. Vraiment, c'est un centre spatial qui mérite d'être connu,
ouais,
et surtout dont les travaux méritent d'être connus puisqu'ils sont extrêmement utiles. Donc il y a plusieurs entreprises qui travaillent avec ce centre universitaire spatial de Montpellier. On a même la confidence d'Arnaud de Roné, qui est directeur toulousain d'Airbus Défense.
Il y a quand même une connexion,
hein,
oui, avec
voilà.
Toulouse.
Oui, complètement, puisque complètement, il travaille étroitement avec Toulouse aussi. Il a dit, si à son époque, il y a 40 ans, ce centre spatial à Montpellier avait existé, il serait venu y étudier. Donc, c'est dire aussi la qualité de ce centre spatial universitaire de Montpellier, qui est situé dans le quartier Euromédecine.
Je me demandais justement où est-ce qu'il était situé.
C'est le premier centre spatial universitaire de France. Hein, et depuis 10 ans, il a formé 1 000 000 d'étudiants aux nanosatellites.
Eh ben, ok.
Voilà.
Ça en fait des étudiants, super. Ben, je suis ravie de l'apprendre. Je pense que nos auditeurs aussi, qu'il y a un tel...
Oui, et puis on peut aller plus loin en lisant l'article, et puis on allait en voir un petit peu, et puis on va suivre du coup de près l'actualité de ce centre, et notamment sur l'action et le rôle de ces nanosatellites dans le repérage des phénomènes climatiques pour les prévenir, pour prévenir leurs effets.
Ben, on va suivre ça de près et je suis sûre que vous allez nous en reparler
Tout
dans la Marseillaise.
Fait, oui.
On a hâte d'en savoir plus et ça va nous aider donc à prévoir les prochaines conditions météorologiques qui vont nous tomber dessus.
Notamment les phénomènes, ce qu'on appelle le phénomène cévenol, mais c'est un peu impropre. Il vaut mieux parler maintenant de phénomène méditerranéen que cévenol. Ben oui, c'est plutôt un phénomène maintenant méditerranéen, même si c'est le nom un peu d'usage. Hein, on voit bien que de toute façon, ça concerne tout l'arc méditerranéen, ces phénomènes de pluie intense et d'inondation. Et d'ailleurs, il n'y a pas de frontière dans les champs de recherche et d'études entre, on va dire, des Cévennes sur la côte marseillaise, par exemple. Hein. C'est les mêmes problématiques.
Ok, bon, ben, merci pour toutes ces informations. On a hâte d'en savoir plus aussi. Par la suite, vous êtes allé donc avec la Marseillaise toujours à Nîmes et vous révélez la nouvelle grande exposition du musée de la Romanité.
Oui, alors c'est une exposition qui va intéresser au-delà même de Nîmes. Elle est de dimension, on va dire, nationale. Hein.
Ouais.
Donc, ce musée de la Romanité qui est magnifique, hein, nous fait un magnifique cadeau avec cette exposition qui s'intitule « Dévoiler Nemosus ». Alors, Nemosus, c'est le nom antique de la ville de Nîmes. Hein. Alors, il propose une série d'aquarelles réalisées par Jean-Claude Golvin, Alors, Jean-Claude Gauvin, c'est pas n'importe qui, hein. Ouais. Il est architecte, archéologue, dessinateur, et c'est le premier grand spécialiste mondial de la restitution par l'image des grands sites de l'Antiquité. D'accord. Dès qu'on feuillette un livre sur l'Antiquité, sur les grands sites de l'Antiquité au niveau mondial, mais notamment à Nîmes, mais aussi à Narbonne ou à Arles, hein, pour être proche dans notre région, grande région, et au-delà, à côté aussi. Donc, c'est souvent des aquarelles et des dessins qui sont issus de sa main, quoi, hein, de sa création. Alors, cette exposition, elle nous propose carrément une immersion dans la ville de Nîmes à l'époque romaine du Haut Empire. D'accord. Avec donc un détail exceptionnel. Nous sommes plongés dans cette époque. Par exemple, il y a un très beau focus sur l'amphithéâtre nîmois avec 13 aquarelles inédites. Hein. C'est des aquarelles qui lui avaient été commandées au début quand a été lancée la rénovation de l'amphithéâtre, hein, qui est toujours en cours, hein, notamment les arènes. Hein. Donc, et ce qui est intéressant aussi, ce qui va plaire à un public jeune, hein, et moins jeune, hein, c'est que Jean-Claude Gauvin a aussi beaucoup travaillé pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que, il y a des jeux vidéo, même une licence extrêmement connue qui met en scène un environnement antique ou un environnement moyenâgeux, mais notamment antique. Hein. Donc, il a travaillé. Donc, quand beaucoup de jeunes sont familiers de son œuvre, sans le savoir, parce que quand ils vont mettre leur jeu favori sur leur console, eh bien, en fait, ils vont être plongés dans l'univers qui a été conçu par Jean-Claude Gauvin. Donc, il y a toute une partie de l'exposition qui est consacrée à cette partie de son travail. Et c'est bien sûr, nous avons les monuments, bien sûr, qui nous ont été livrés par l'histoire et qui sont là et qu'on peut visiter physiquement. Ouais. Mais il y a aussi tout un travail d'étude pour reconstituer, ça a toujours été fait depuis le début des découvertes à la fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, par les archéologues qui étaient aussi des dessinateurs très 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 pointus et très fins.
Tout avec ce qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, au final, évidemment, on peut le redécouvrir. Ça doit être magnifique.
Exactement. Ah ouais. Et surtout les couleurs. Souvent, nous n'avons plus les couleurs et là, évidemment, le travail de Jean-Claude Gauvin, c'est aussi un travail pour retrouver la couleur des lieux, des sites et surtout leur dimension, hein, puisqu'il nous reste bien évidemment des monuments magnifiques, hein, mais il les met en perspective et surtout il les replace dans une réalité, la réalité de l'époque. Et donc c'est un véritable support, plus qu'un support pédagogique, hein, ça nous aide vraiment à comprendre l'époque, à comprendre l'histoire, par le dessin. Donc c'est une exposition qui a ouvert ses portes récemment, le 8 décembre, et qui est donc ouverte jusqu'au 5 mars. Donc on a le temps d'aller la voir, la revoir, d'y aller même en famille. Hein. C'est vraiment une exposition intergénérationnelle. Ouais. Et on voit que, on pense souvent que, par exemple, les jeux vidéo, c'est quelque chose, évidemment, c'est du divertissement, mais c'est aussi de l'apprentissage, c'est des supports aussi pour apprendre l'histoire. Et le travail de Jean-Claude Gauvin, il y a des grandes licences de jeux vidéo qui font toujours appel à lui pour rendre véridique l'univers des jeux vidéo.
Eh bien, en tout cas, vous nous l'avez bien vendu. Moi, j'ai bien envie d'aller voir ça. Ça a l'air magnifique. Ah oui. Merci pour ces informations. Et donc, pour finir, un dernier sujet, c'est le focus sur l'action de la région pour ramener le public dans les salles de cinéma. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, en fait, oui, on le sait qu'il y a une baisse de fréquentation importante dans les salles de cinéma. Alors, il y a plusieurs causes, hein, mais on peut dire que vraiment le canapé a été vraiment l'ennemi numéro un des salles de cinéma, puisque avec le développement notamment aussi des plateformes qui proposent pour des abonnements, on va dire, entre guillemets, modiques, si on peut se les payer, un accès à des films, mais rien ne remplace la salle obscure. Donc, on a là des collectivités aussi, et notamment la région Occitanie, qui cultive vraiment avec le 7e art une relation vraiment très très forte.
Et oui, on a plein studios de partout qui se construisent.
Voilà, exactement, tout à fait. Et puis oui, il faut savoir que c'est la deuxième région française en nombre de jours de tournage, derrière l'Île-de-France. Hein, et ça va être aussi pour la région... il y a vraiment la volonté d'aider à la création d'emplois dans l'industrie cinématographique d'ici 2028, donc c'est demain, et on parle de 4000 emplois potentiels. En attendant, la région, elle va agir pour soutenir les salles obscures, alors de façon, on va dire, assez judicieuse, hein, puisqu'elle a lancé un dispositif qui s'appelle la salle d'à côté. En fait, ça permet d'aller voir une œuvre, mais elle va être accompagnée par des rencontres avec des réalisateurs, avec des acteurs.
D'accord.
Et donc
tout ça au cinéma. C'est au cinéma ?
Oui, au cinéma, il y a 110 cinémas d'Occitanie dans 123 communes qui ont déjà bénéficié de ce dispositif. Ça fait un total de 360 séances. Et donc, ce dispositif est toujours en cours. Hein.
Ouais.
Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui... animent ces soirées. Ce sont des étudiants de la filière cinéma des universités de Toulouse, donc
d'accord,
l'université Jean Jaurès, l'université
de
Montpellier.
Aussi.
Oui, à Toulouse, il y a Montpellier avec l'université Paul Valéry.
Ouais.
Et donc, il y a cette agence régionale du cinéma qui est pilotée par la région Occitanie. Elle a déjà permis à 52 étudiants dans les filières cinéma, donc comme je disais, les universités de Toulouse et de Montpellier, d'être accueillis en alternance dans des structures, on peut citer Ciné 32, qui gère la programmation des salles obscures du GERS.
Ouais.
Il y a le festival Ciné Latino de Toulouse, ou l'association des productrices et producteurs d'Occitanie. Et donc, les étudiants organisent et animent des soirées à thème, que ce soit de longs métrages, courts métrages, des ateliers, des projections, des débats dans les cinémas indépendants, souvent d'art et d'essai. Et donc, l'objectif est de proposer au public qui bénéficie de des tarifs attractifs, mais aussi de rencontrer des acteurs.
C'est plus inhabituel, on rencontre souvent les réalisateurs, mais les acteurs un peu moins peut-être.
Oui, il y a les acteurs aussi qui peuvent être là. Donc, comme nous l'explique l'élu qui est délégué à ces questions à la filière cinéma qui s'appelle Claire Fita, c'est de donner envie aux spectateurs de revenir dans les salles.
Ouais.
On voit bien qu'il faut proposer un peu plus que la simple projection. Donc, il y a quand même parmi les atouts de la région Occitanie un tissu, on va dire, de salles de cinéma qui est très important, des cinémas d'art et essai. Donc, ils ont besoin, évidemment, ils ont leur public, hein, il faut que le public revienne. Mmh. Il faut aussi faire attention au niveau tarifaire, parce que on parlait dans notre dossier des difficultés aussi... on va dire financière des personnes. Mmh. Et c'est vrai que on fait souvent l'impasse, notamment sur les loisirs et sur les loisirs et sur la culture, qui sont aussi indispensables que le pain. Mais bon, quand il faut arbitrer entre le pain et le cinéma, l'arbitrage est vite fait.
Oui.
Voilà. Donc ça donne un éclairage sur aussi le soutien aux jeunes étudiants qui embrassent ou qui veulent embrasser ces métiers qui sont très divers. C'est intéressant dans cette démarche-là de la région d'allier à la fois le soutien aux étudiants en leur permettant de faire de l'alternance,
ouais,
et de proposer au public des soirées hors du commun,
ouais,
et plus
qu'une
simple projection.
Ouais.
Voilà. Donc on explique tout ça dans la Marseillaise de vendredi.
Bah, ça a l'air de bouillonner de projets, en tout cas c'est trop intéressant. Et c'est vrai que rien ne vaut une séance de cinéma par rapport à quand on est chez nous, quand on est au cinéma vraiment.
Ce n'est pas la même expérience du tout.
On est dans un monde différent, quoi. On est déconnecté complet et c'est vrai que c'est quand même un moment,
oui,
un moment génial. Donc c'est vrai qu'il faut y retourner. Bon, ben on a fait le tour de ces quelques titres. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Françoise Verna.
Merci
on
à
retrouve
vous.
Tous ces dossiers donc dans l'hebdo de la Marseillaise d'Occitanie qui paraîtra ce vendredi 16 décembre, dont vous êtes la rédactrice en chef. Et on vous retrouve aussi, nous, dans Divergence, tous les lundis pour l'émission Quoi de neuf.
Exactement, avec grand plaisir.
Bon, ben merci beaucoup et
merci,
à très
Noémie,
bientôt.
Merci à tous.
Merci
à bientôt.
Beaucoup, Françoise.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Verna. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.